Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous recevons ce matin Magali Lépine-Blondeau qui associe son nom ainsi que sa sœur Eugénie à la campagne de Parkinson Québec, faire découvrir cette maladie qui touche de plus en plus de gens, mais qui n'est pas si connue que ça. Elle est avec nous donc en studio. Magali Lépine-Blondeau, bonjour.
Bonjour, Paul.
Pourquoi vous avez accepté? Je comprends que votre père souffre de la maladie. Ouais. Vous avez été très discrète là-dessus pendant les dernières années. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a fait là, que vous dites... Je prends ça à bout de bras.
Je pense que d'abord, je devais respecter son rythme à lui dans son acceptation de la maladie, dans son apprentissage de la maladie aussi. Puis, depuis son diagnostic, mon père a rejoint le conseil d'administration de Parkinson Québec. Nous, on s'est renseignés sur la maladie et je trouvais que ça tombait sous le sens d'associer mon nom à un organisme comme Parkinson Québec, parce que je trouve qu'il y a encore tellement de tabous, de stigmas, d'ignorance concernant la maladie de Parkinson. Donc, j'ai espoir qu'on puisse en parler davantage et aussi différemment dans l'espace public.
Quand vous dites des tabous et des stigmas, ouais, vous pensez à quoi?
Mais je pense qu'on connaît très mal la maladie, comme vous le disiez, et qu'après, la maladie se manifeste de tellement de façons différentes qui nous sont inconnues que nos réactions, le regard en fait social sur les gens atteints de Parkinson change. Et malheureusement, ça semble être des témoignages partagés que les gens qui reçoivent un diagnostic de Parkinson voient apparaître chez eux la honte.
La honte?
La honte, ça semble vraiment un sentiment partagé. Puis ça me désole. J'imagine que c'est la peur de disparaître de l'espace public. C'est peut-être la peur de devenir impertinent, alors que c'est absolument pas le cas. Et donc, si je peux participer à alléger ce sentiment atroce, ben j'en serai très fière.
Pour vous, là, avant que votre père reçoive un diagnostic, ouais, c'était une maladie inconnue, j'imagine.
Tout m'était inconnu, mis à part les tremblements.
OK. Et quand il vous a annoncé qu'il avait cette maladie, ouais, ça a été quoi votre réaction initiale?
Beaucoup d'impuissance. Évidemment, je me butais à ma propre ignorance. Je voulais aller chercher de l'information, mais avec prudence pour pas nécessairement m'exposer à des scénarios catastrophes. On trouve tellement de désinformations là, sur Internet. Je voulais l'accompagner là-dedans, mais je pouvais pas aller plus vite que lui. Et lui a mis du temps avant d'avoir envie d'en parler à son entourage.
Ça veut dire qu'il ressentait les effets de la maladie, mais hésitait à en parler.
Ouais, pour ne pas que ça le définisse. Vous avez côtoyé la maladie, vous aussi?
Oui, mon père a eu la maladie il y a fort longtemps. Et à Montréal, Montréal était une des plaques tournantes de la recherche, mm-hmm, sur la maladie de Parkinson, travaux du docteur Barbeau. Et c'est une maladie qui évolue très lentement, très progressivement. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que d'abord, on ne connaît pas la cause de la maladie.
Non.
En tout cas, formellement. Et que les travaux, les traitements, il y en a, il y a de la recherche, mais il n'y a pas tant de découvertes reliées à ces travaux-là. Pourtant, au Centre de recherche du CHUM, il y a des experts de renommée internationale.
International, oui, vraiment.
Qui sont là. Et c'est ça qui fait que quand tu apprends que quelqu'un de ta famille a la maladie, bien, est-ce que le traitement va... Ils vont trouver quelque chose? Et souvent, il y a des médicaments qui soulagent, ouais, qui tempèrent les symptômes, mais pas plus que ça.
Oui, ben, d'où l'importance, justement, de financer la recherche. Hein. C'est comme si, en finançant la recherche, on finance l'espoir aussi d'une vie meilleure. Il y a la médication. Je sais que mon père, pour sa part, est vraiment très, très bien suivi sur le plan médical. Puis après ça, ben, il y a l'activité physique qui est vraiment très importante dans les, pour diminuer les symptômes de la maladie chez les personnes atteintes du Parkinson. Et puis, l'importance de l'entourage. Pour être de bons accompagnants, de bons accompagnateurs, aimants, mais aussi pour soulager l'anxiété, qui est un des symptômes.
Comment vous faites ça, soulager l'anxiété de Marc?
Comment je fais ça? D'abord, je l'écoute. Je l'écoute, je le questionne, je l'aime. Et puis, je pense que l'humour est très important aussi. L'humour de toute façon pour soulager la morosité en général, mais aussi pour mieux vivre, tout simplement.
On parlait de ça un peu à micro fermé parce qu'on disait il y a pas de on ne connaît pas la cause de la maladie. Mmh. Mais on a fait beaucoup de liens qui se sont confirmés au fil des recherches entre l'environnement et la maladie, donc les pesticides et la maladie. Mon père était agronome, travaillait pour l'État, mais il passait ses journées dans les fermes, puis dans... donc fort exposé dans ces années-là à des quantités assez massives de pesticides. Alors, tu disais, est-ce que c'est ça qui donne la maladie? Ça déclenche la maladie, mais il y a clairement un lien entre les... la présence de pesticides dans les sols et l'exposition pour les humains, ça, c'est assez clair.
Oui, ce lien-là a absolument été fait et confirmé par la recherche. Après, est-ce que c'est le seul facteur? On l'ignore. On pense que ce serait un mélange d'hérédité et d'environnement.
Ça fait peur aussi, parce que pour tout vous dire, mon père a eu la maladie et mon frère a la maladie.
C'est vrai.
Oui. Alors là, tu te dis, OK, est-ce que c'est héréditaire ou pas? Tu te poses la question. Il semble qu'il n'y a pas de réponse formelle, mais c'est quand même une réalité.
Et comment il va, votre frère?
Ben, il va comme un patient qui a le Parkinson depuis des années, puis mais ça évolue. Ça évolue, c'est une maladie qui évolue très lentement.
Oui.
Puis c'est ce qui est frappant, je sais pas si ça a été le cas avec Marc, mais c'est de... T'as des symptômes, mais tu sais pas ce que t'as. Mm-hmm. Puis là, tu regardes plusieurs scénarios, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Puis avant d'avoir la réponse, ça peut prendre du temps. Puis tu te dis, problème musculaire, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si ça a été comme ça.
Mais... Ben oui, ça s'est pas manifesté par les tremblements, justement. Chez papa, ce qu'on a constaté, c'est une lenteur dans ses gestes, une rigidité, une perte d'odorat qu'il n'avait pas signalé à l'époque. Et puis, une façon différente de composer avec les situations stressantes. Et moi, a posteriori, je m'en suis vraiment voulu parce que par moments, il m'est arrivé de m'impatienter contre lui, de le brusquer. Je comprenais pas cette espèce de lenteur qui était nouvelle chez lui. On savait juste pas.
Non, c'est ça. Puis probablement que lui savait peut-être pas non plus encore, ou en tout cas, il vivait les symptômes sans savoir ce que c'était.
Oui, absolument.
Parlons de votre carrière un peu, ça
D'accord.
va très bien.
Ça va pas si mal.
Ça va pas si mal du tout. Je veux juste vous entendre sur l'expérience au César quand un film qui se présente en finale contre Oppenheimer et qui est un film fait ici au Québec et qui... Ben, d'abord, j'imagine qu'il n'y avait pas d'attente en partant.
Non.
0-0-0.
Non.
Et là, quand ça sort et que c'est simple comme Sylvain qui l'emporte, c'est quoi la réaction?
Ben, beaucoup de joie. Forcément, beaucoup de joie. Les gens de la profession nous disaient tous, avant le gala, dans les jours qui ont précédé, qu'ils avaient voté pour le film. Donc, on sentait bien comme la vague d'amour qui déferlait sur Sam comme Sylvain. Mais de là à remporter le César contre Christopher Nolan, qui était d'ailleurs dans la salle, puisqu'il recevait le César d'honneur cette soirée-là. Ça, c'était complètement inattendu. On était là en équipe. On était avec nos producteurs. Mon collègue Pierre-Yves Cardinal, Monia Chokrie, évidemment, était là. Et donc, on a vécu ça en famille. Là. On a ri. On a énormément ri. Voilà.
comment on explique ça? comment... je l'ai vu le film, là, c'est un beau film, c'est une histoire. Puis,
vous nous auriez pas donné le César, vous?
Oui, mais pourquoi? Non, mais tu dis Oppenheimer, avec la masse américaine.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, je pense que les gens ont vraiment été charmés par le film, mais je pense que c'est aussi... tout ce que Monia incarne comme cinéaste, en tout cas, c'est mon analyse. Je pense qu'elle arrive avec une parole, un discours, que tout ça est absolument incarné chez elle, avec un regard féministe qu'elle est en accord avec son époque, puis en adéquation avec cette espèce de vent de changement qu'on sent souffler sur le cinéma et la société française en ce moment.
Oui, en retard, par exemple, en France.
Complètement en retard, mais mieux vaut tard que jamais.
Ça, c'est sûr. Mais je regardais la présence des femmes à l'écran, à la réalisation, des films qui sont porteurs, là, des films qui ont beaucoup, beaucoup de succès. Et là, j'imagine...
À commencer par le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute,
qui
vient de remporter un Oscar, qui a remporté la Palme d'Or, qui a remporté le César du meilleur film.
Ça doit secouer un milieu où, je dirais, les hommes d'une génération ont dominé, là, puis outrageusement, on a l'impression que le Me Too vient de frapper la France là, depuis un an ou deux.
Oui, bien... On sentait que ça craquelait déjà depuis quelques années, mais il y avait vraiment une résistance. Là, de mon point de vue, ces secousses dont vous parlez sont absolument réjouissantes. Moi, j'ai vraiment eu une émotion très vive quand ils ont nommé le fait que les 5 femmes en nomination pour le meilleur rôle féminin avaient été mises en scène par 5 réalisatrices différentes. Et ça, c'est, je pense pas que c'était intentionnel, c'était juste le constat d'une société qui vient d'entrer dans l'ère du temps puis où les femmes ont quelque chose à dire et de plus en plus les moyens pour le faire.
Est-ce que le fait d'aller chercher un César comme ça avec le film, ça ouvre des portes? Est-ce que ça a un effet? Êtes-vous capable de mesurer ça maintenant? Ou...
Mais je pense que ça a très certainement, ou ça aura très certainement un effet pour Monia. Ça, c'est sûr. Au niveau du financement, je pense que ce que ça signifie aussi, c'est qu'elle est complètement adoubée par le milieu en France, avec raison d'ailleurs. Je pense que je serai peut-être à même de constater les récoltes collatérales de ce César dans les prochains mois.
Bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous. Merci
Magali
pour
Lépine Blondeau.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Dany Laferrière nous propose son nouveau livre, Un certain art de vivre. C'est publié aux éditions du Boréal. Il est avec nous ce matin. Dany Laferrière, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelque chose d'apaisant dans votre livre, dans le sens où d'abord, la façon dont c'est écrit, c'est aéré, c'est espacé, c'est aussi l'occasion pour le lecteur de prendre son temps. Je vous le disais, là, on n'enfile pas les pages.
Non, ni même les idées, ni les émotions qui traversent le livre. C'est vrai qu'il y a deux façons de lire. On enfile les pages, comme ils appellent ça... Et on lit pour le récit, pour le suspense et pour le plaisir même d'avaler ce bon plat copieux. Et là, c'est autrement. C'est autre chose. Et on est dans les idées, on est dans les émotions, on est dans les sensations aiguës. Et puis aussi, d'après moi, puisque je les ai toutes en moi, mais quand même, je sais que le lecteur ou la lectrice peut faire un choix. Il y a des choses qu'on passe plus vite et parce qu'on est attiré par un autre texte qui nous touche. Par exemple, j'ai des petites cartes et on a tous nos angoisses. Il faut savoir avec laquelle on accepte de passer la nuit. Et c'est dynamique parce que...
Mais ça provoque un souvenir chez le lecteur ou la lectrice.
On a tous nos angoisses aussi et ça montre aussi que nous sommes dans une fraternité. C'est-à-dire, les gens qui se lèvent en souriant, d'ailleurs, puisqu'il faut se lever le matin, donc il y a quelque chose qui suppose la nuit. Et les gens qui se lèvent en souriant, ça ne veut pas dire qu'ils ont moins d'angoisse que vous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu de ce type d'angoisse cette nuit-là. Ils sont capables quand même de se mettre en mouvement. Donc c'est important de savoir que nous ne sommes pas les seuls à nous embourber dans nos angoisses, mais il y a des gens qui sont plus dynamiques.
Vous parlez d'amour, vous parlez de couleurs, vous faites des appels, vous parlez de votre mère qui a de la misère à vous suivre, qui avait des difficultés à vous lire, quoi.
Mais en fin de compte, ce qu'elle disait... De toute cette difficulté qu'elle avait à me lire parce qu'elle ne comprenait pas trop bien et parce qu'elle sait tout de moi. Alors, elle sait aussi les choses que je n'ai pas mis. Donc, elle lisait un peu, elle ne comprenait pas qu'elle n'a pas pu repérer tel visage qu'elle connaissait et d'autres, des choses qu'elle ne connaissait pas, qui lui semblent assez proches. Et là, j'ai compris que ce qu'elle faisait, en fait, c'était une description très précise de mon travail, de ce que je veux faire en littérature. Tout à l'heure, et on parlait, et vous me disiez que j'avais raconté que j'aime parler de pays, d'endroits, de lieux que je ne connais pas.
Ouais.
C'est exactement ce que ma mère disait, de les décrire. Et parce que je crois que l'imaginaire est ainsi fait. Pour nous permettre d'aller dans des endroits qu'on n'a pas, disons, arpentés avant. Il faut utiliser cet imaginaire. Il ne faut pas rester, se laisser intimider et par des histoires de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux tout le temps. Il y a des zones où il faut dire la vérité, dans le journalisme, au tribunal. Mais il y a des zones aussi, les enfants ne s'en privent pas. Ils peuvent vous raconter la même histoire sous des tons différents, sous des angles différents. Ils ne se gênent pas.
Je vous raconte une anecdote et vous me direz ce que vous en pensez. Trois personnes, des gens connus que je nommerai pas, qui ont vécu le même événement, qui sont installés autour d'une table, qui racontent les trois, chacun leur version de l'événement. Et les trois versions sont différentes et aucune n'est vraie.
Ah oui, oui, absolument, bien sûr. On aurait pu pousser ça peut-être à 10 personnes. On trouvera une personne qui a... Mais on est étonné. Et quand on... Maintenant qu'il y a des images, c'est-à-dire on filme avec des appareils électroniques, on photographie, on emmagasine, on stocke, si l'on peut dire. Quand on a quelque chose dans la tête, des souvenirs tellement précis... d'odeurs, de couleurs, de sensations, et qu'on revoit et qu'on va chercher les vraies images, on s'étonne comment on a été si loin. Eh bien, on était à la fois loin et près. C'est-à-dire, les émotions qu'on pense qu'on a reçues étaient vraies, les sensations souvent, et les couleurs et les odeurs, parfois oui, parfois non, mais c'est le récit qui n'est pas juste. Ce n'était pas à l'endroit où l'on a cru que ça se passait, ce n'était pas l'année. Et les gens qu'on croyait qui étaient présents, ce n'étaient pas eux. Mais quelque chose flotte, parce que sinon ça ne ferait pas un souvenir, s'il n'y avait rien. Eh bien, c'est l'émotion.
Est-ce que le souvenir égale toujours nostalgie?
Non, pas forcément nostalgie. Je peux me rappeler de quelque chose pour pouvoir changer la chose aussi. Et ça peut être fonctionnel. Et un souvenir. Je peux chercher le souvenir pour retrouver le visage de quelqu'un que je recherche parce que j'ai besoin de lui dans le moment présent. Le souvenir est nostalgique quand il nourrit notre imaginaire, quand il ne débouche sur rien de concret, mais qu'il nous donne un plaisir ou une tristesse. Mais une tristesse un peu chic parce que c'est nous qui sommes allés chercher.
La peine d'amour, ça dure longtemps, ça, c'est dur à évacuer, ça habite en permanence?
Oui, mais vous savez, nous sommes des individus très étranges. Nous oublions la chose fondamentale et on ne sait pas comment nous en sommes arrivés là, à savoir que nous sommes mortels et que nous pouvons mourir tout à l'heure. Vous et moi, comme ça, en sortant, une voiture ou bien un névrisme dans l'escalier. Et je pense que et cet écrivain qui est surant, qui a dit « La mort est une chose extraordinaire. Malgré les millénaires, malgré les preuves et les exemples et les expériences, elle garde toujours sa fraîcheur. » On est toujours étonné de voir dans le journal « Ah, mais quelqu'un est mort, si c'est quelqu'un de connu. » C'est comme si c'est pas possible. Et alors qu'on est au courant de cette histoire.
Et l'amour, ça occupe quelle place dans votre vie?
Ah mais l'amour, elle est différente aussi. Quand on dit l'amour, c'est un vocable très vaste. Et c'est l'amour pour son chat, pour sa mère, pour une femme, pour... Et dans ce livre, où il y a le personnage de Oki, j'avais remarqué que la littérature nous ment un peu sur l'amour. Parce que la littérature veut décrire les sentiments, veut décrire le visage de l'être aimé. Et si vous voulez décrire le visage de l'être aimé, c'est que vous n'êtes pas en vous-même. Vous êtes en train d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre. Parce que quand on est amoureux, on n'a pas besoin. On est habité. L'inconnu, on n'ose même pas des fois dire le nom de la personne qu'on aime. Cela réveille trop de sensations confuses qui affluent en vous et qui vous colonisent littéralement le cerveau. J'ai remarqué que généralement, il suffit de dire le nom de l'être aimé, on n'a pas besoin de faire un poème pour qu'il soit là, dans la salle, immédiatement et qu'il occupe tout l'espace. Donc, les descriptions longues, les poèmes d'amour, c'est pas du tout à l'être aimé, c'est pour dire qu'on est amoureux. L'amour lui-même, il est habité par le silence, il est habité par des sentiments très confus, par un inconfort total, et, mais dont on ne pourrait pas vivre sans.
J'ai lu votre lettre dans Le Devoir concernant la situation en Haïti. C'est un pays qui nous apparaît de loin instable, mais en même temps, vous parlez de ces femmes qui sont fortes et qui jouent un rôle crucial, même si elles demeurent silencieuses quand une crise comme ça frappe le pays.
Oui, totalement. C'est-à-dire, j'entends toujours parler d'Haïti par les éclats, c'est-à-dire les événements violents, les pneus, les flammes, les maisons, c'est pas des tueries, on le sait, c'est pas du tout du spectacle. Et puis, on oublie la puissance et l'espoir qui chevillent au corps et au cœur de plus de 80% de la population. Et là, j'ai essayé d'expliquer cela à quelqu'un, je lui ai dit, vous savez, une tragédie ne prend sa place que quand elle a chassé une précédente. Et la précédente, c'était le tremblement de terre. Comment ça se fait que cette tragédie du tremblement de terre ne s'ajoute pas à celle des gangs armés et de la situation politique qui est complètement confuse et impossible? Comment ça se fait que... C'est parce que ces 80%, dont une grande majorité de femmes, avaient retissé le pays à main nue, pas avec l'aide économique et qu'ils n'ont pas reçu, et que ces gens-là n'ont pas reçu, et qu'ils se sont attardés soit en chemin, soit arrivés sur place avec les notables et autres, ou pas arrivés du tout. Et elles l'ont fait silencieusement, elles l'ont fait dans l'ombre, qu'on n'a pas vu que le pays s'était retissé au point de sortir de la tragédie et d'en n'arriver à une autre. On a eu, par exemple, la tragédie du Valier qui a duré des décennies, 29 ans, mettons. Et cette tragédie, quand elle est terminée, a fait, disons, laisser la place à une sorte d'indécision totale qui fait qu'on n'a pas eu de situation politique stable depuis. Stable depuis. Vous savez, ce qui nous paraît comme une sorte d'improvisation de choses qui vont comme ça, ne l'est pas tant que ça. Ma mère avait l'habitude de me donner à déjeuner sur un petit souplat. Et sur le souplat, il y avait l'ensemble des présidents d'Haïti. Et uniquement les dates, les visages, date d'entrée, date de sortie. Et un jour, j'ai regardé et j'ai découvert l'équation politique d'Haïti, comme ça, dans une illumination. J'ai vu que chaque fois qu'il y a une dictature, eh bien, la situation impossible et indécise dure autant que la dictature elle-même. Et c'est une dictature qui dure 15 ans, et bien 15 ans de situations dramatiques qui suivent. C'est comme la queue de la comète. Il y a, bien sûr, ce n'est pas aussi précis que je le dis là, mais à chaque fois, une dictature, c'est une catastrophe. C'est comme un tremblement de terre, c'est comme un qui est à demeure. Le tremblement de terre de 2010 a duré 35 secondes. Mais là, c'est 29 ans qui est à demeure. Eh bien, cette dictature, pour essayer de retisser le pays, ça demande à cette Islande, à ces femmes qui font du reprisage, du rapiessage, qui essaient de faire en sorte que la vie quotidienne, parce que ce n'est pas la vie quotidienne seulement qu'on peut retisser, et non par les idées, et non par les projets. Ça, les enfants mangent 2 ou 3 fois par jour, même si peu. Il le faut. D'ailleurs, le lendemain du tremblement de terre, quand je suis sorti de mon hôtel, la première chose que j'ai vue, c'est une vieille femme qui était en train de vendre des mangues. Parce qu'elle n'a pas de nourriture pour les enfants. Elle doit reprendre la vie. Même si c'est un tremblement de terre, que la planète en parle, les enfants doivent manger.
Merci beaucoup de votre visite ce matin. Très apprécié.
Merci aussi.
Dany Laferrière, le nouveau livre Un certain art de vivre, publié aux éditions du Boréal. On va parler maintenant de l'éclipse. On a regardé tout le phénomène, le déplacement, la durée à Montréal, 3 minutes, 30 secondes. Je parle de l'éclipse totale, évidemment, à Drummondville. Et là, les écoles qui envoient toutes sortes de notes aux professeurs, qui proposent des formations. Puis là, on s'est dit ce matin, on va essayer de rendre ça clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour, évidemment, protéger ses yeux? Docteur Dany Gauthier est avec nous, ophtalmologiste et spécialiste des maladies de la rétine. Docteur Gauthier, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
Première question. Vous, si vous avez à être présent lors de l'éclipse, comment vous allez vous comporter? Vous allez prendre des lunettes, pas de lunettes? C'est quoi la meilleure façon de faire?
Ben, je pense que la meilleure façon de faire, c'est effectivement de se procurer des lunettes. Moi, je m'en suis procuré pour moi et pour tous mes proches, tous ceux à qui je tiens beaucoup, là, donc je veux qu'ils préservent leurs yeux. Donc oui, je vais porter des lunettes.
Quel est le principal danger ou la principale erreur que les gens pourraient faire?
Ben, le principal danger, c'est de regarder directement l'éclipse. Aussi, certaines personnes peuvent penser que regarder à travers des jumelles ou un appareil photo, ça peut être sécuritaire. C'est pas nécessairement sécuritaire. Il faut avoir les bonnes lunettes, les bons filtres sur les appareils photo. Et puis, il faut bien connaître le phénomène aussi pour savoir à quel moment on peut regarder directement l'éclipse versus quand il faut se protéger.
OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? À quel moment on peut regarder directement l'éclipse?
Ben, les gens qui sont dans le couloir de totalité... Ben, en fait, on va commencer par les gens qui sont à l'extérieur du couloir de totalité, c'est-à-dire là où il n'y aura pas une éclipse, un alignement parfait. Alors, si on est à l'extérieur, il faut porter les lunettes en tout temps parce qu'il y a danger d'avoir des lésions au niveau de la rétine. Si on est dans le couloir de totalité, il va y avoir un moment donné où l'axe entre le soleil, la lune et la Terre va être parfait. Par conséquent, on pourra enlever les lunettes pendant une certaine période de temps. Mais je m'en garde de les gens qui veulent faire ça. Il faut vraiment s'informer adéquatement ou avoir une supervision ou faire partie d'un événement. Là, il y a des groupes d'astronomes qui organisent des événements bien structurés. Et là, il y a une fenêtre où on peut enlever les lunettes. Mais personnellement, je pense que de porter les lunettes en tout temps, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire.
Quand on parle de dommages à la rétine, qu'est-ce que ça veut dire, là? Quels sont les risques pour la rétine de l'œil?
Bien, on peut avoir une brûlure au centre. En fait, vous savez, le phénomène de l'éclipse, c'est pas nécessairement différent de la vie quotidienne. Hein? Si on vous demandait de vous coucher sur le dos et de fixer le soleil, bien, vous auriez cette brûlure-là au niveau de la rétine. Ce qui arrive avec l'éclipse, c'est que la quantité de lumière relative semble moindre, puis on a une tendance à vouloir fixer le phénomène qui est spectaculaire, et c'est là que les rayons vont se concentrer dans le centre de l'œil, qui est la macula, et peuvent causer une brûlure ou une maculopathie. Là. Et à ce moment-là, ben ça peut laisser des dommages qui vont être temporaires, parfois, ou plus permanents selon le temps que vous avez regardé l'éclipse.
Bon, j'entends une phrase de façon assez régulière de gens qui disent... vous savez, il va faire noir. C'est une éclipse totale, ce qui fait d'ailleurs la caractéristique de l'événement. Donc, si le soleil est recouvert, c'est pas grave, on peut regarder, c'est pas dangereux.
Ben, c'est ça. Il faut être dans la bande de totalité au bon moment. Alors, il existe des applications qui vont pouvoir vous dire que vous pouvez enlever vos lunettes puis regarder l'éclipse à ce moment-là. Mais quand on parle d'enfants, de gens qui prendront peut-être pas le temps de bien se documenter, je vous dirais, gardez donc vos lunettes puis vivez le moment de la noirceur. Mais pour les autres qui ont un intérêt plus marqué, il faut vraiment, vraiment bien se documenter et savoir à quel moment précis on peut les enlever et être dans cette bande de totalité-là.
Merci, docteur Gauthier. Parfait, c'est gentil.
Avec grand plaisir.
Au revoir. Docteur Danny Gauthier, qui est ophtalmologiste spécialiste des maladies de la rétine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On a appris donc que Marie-Claude Barrette est passé en mode attaque contre Meta, Facebook, si vous préférez, pour de la publicité trompeuse. Elle n'est pas la seule victime. On a vu toutes sortes de choses dans les derniers mois. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour, Paul.
On va résumer les faits d'abord. Que des photos de vedettes soient associées à de la pub, à du marketing, on a vu ça, là, puis la liste est longue. Dans ton cas, c'est une opération de crypto-monnaie. Mm-hmm. Comment tu l'as su? Comment c'est arrivé?
Bien, tu sais, moi, j'ai une page Facebook professionnelle, puis il vient avec ça un Messenger. Et là-dessus, à un moment donné, je me souviens, c'est le 6 octobre, j'ai commencé à avoir des messages combien je devrais investir dans ta crypto-monnaie. Ben, tu sais, sur le coup, tu dis, voilà, je sais pas c'est quoi. Fait que là, je répondais, je sais pas de quoi vous parlez. Mais là, à un moment donné, pendant la journée, il y en avait de plus en plus. Et là, j'ai demandé à une dame, est-ce que c'est possible d'avoir une photo de ce que vous me parlez? Et là, je vois la presse. Je vois une photo de Guillaume Lepage. On parle de tout le monde en parle. Je vois moi qui est en train de pleurer parce qu'on me dit que je suis hystérique, parce que personne ne me croit, mais j'ai trouvé une faille dans la crypto-monnaie et les gens peuvent devenir faire beaucoup, beaucoup de sous rapidement. Mais tu sais, ce qui était très étrange, c'est qu'on disait que, parce que oui, tu sais, ils prennent du vrai et du faux. J'étais à Tout le monde en parle cette journée-là, le 27 février 2023. Mais là, ils disent que pendant que je parlais de ça, quelqu'un de la Banque du Canada m'a entendu, a appelé Radio-Canada pour interrompre l'émission parce que j'avais pas le droit de dire ça publiquement et que la presse a fait une enquête et voici ce qu'elle a dit alors que l'émission n'était pas diffusée. Et ça marchait tellement dans la tête de plusieurs personnes qu'il y en a qui s'obstinaient avec moi. J'ai dit, c'est une arnaque. Non, je t'ai vu. Non, c'est impossible. Oui, t'étais là. Tu l'as dit. Alors, il y a des gens qui ont pas voulu entendre. Il y a des gens qui étaient contents que je leur dise que c'est une arnaque. Il y a des gens qui se sont fait avoir. Et ceux qui appelaient pour avoir des renseignements, c'était du harcèlement téléphonique après. Puis une fois qu'ils avaient mis de l'argent, bien là, il n'y avait plus de son, plus d'image. Alors, c'est des drames humains là, auxquels j'ai répondu.
Pourquoi tu penses qu'on t'a associé à de la crypto-monnaie? Pourquoi Marie-Claude Barrette? Pierre-Yves McSween, on aurait dit, OK, c'est dans son jardin, là.
Mais je pense que, tu sais, l'argent, il y a une notion de confiance. Il y en a plein qui se font avoir par leurs proches, par leurs comptables. Pourquoi? Parce que d'abord, ils leur font confiance. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est probablement, avec cette fraude-là, peut-être, moi, je pense qu'ils ont des psychologues aussi pour les aider à faire ces fraudes-là, pour rentrer dans la tête du monde de la façon qu'ils font. Et peut-être qu'ils ont dit, bien, quelqu'un de confiance, dit, regarde, moi, viens-t'en avec moi, tu vas faire de l'argent toi aussi. Et je pense que c'est ça, c'est que les gens me faisaient tellement confiance. Et là, c'est ça qui fait mal. C'est basé sur la confiance. Il y a une fraude qui est en train de vous avoir. Tu sais, moi, là, il y a une dame qui m'a écrit, Paul, au mois d'octobre, elle me dit, écoute, j'ai réussi à mettre un mois de côté pour mon mois de novembre. Je viens de payer mon mois d'octobre de mon logement. Là, j'ai mon mois de novembre. Qu'est-ce que tu penses si je le mettais au complet pour les trois prochaines semaines. Penses-tu que j'en aurai assez pour payer ma prochaine année de loyer? Bien, imagine la confiance là, qu'elle est en train de me dire. T'sais, on va. Et je te dis, j'ai fait ça. Et à un moment donné, ça use psychologiquement de répondre à ces gens-là, de me défendre. Et ce qui est arrivé à un certain moment, c'est quand les gens ont voulu se faire rembourser. Là, il me disait, mais tu vas me rembourser. Puis là, il y avait des mots qui étaient moins beaux. Parce que là, eux autres, ils disaient, mais la seule personne que je sais qui est là-dedans, c'est toi. Ça fait que, OK, toi, t'as bien du cash, là, tu vas me rembourser. J'étais, voyons de quoi. C'est pas moi. Puis je vous l'avais dit. Puis, mais bon, tu sais, je l'ai écrit sur ma page Facebook. J'ai fait des entrevues. J'ai contacté la Sûreté du Québec. J'ai contacté la police de mon territoire. Tu sais, à un moment donné, il n'y en a plus de ressources, là.
Est-ce que tu sais combien de personnes ont investi à cause de cette publicité?
C'est difficile à dire parce que...
Mais toi, t'as eu combien de...
Moi, j'ai eu des milliers de messages. Puis là-dessus, il y en a au moins 1000 qui ont investi, je te dirais. Et il y a tous ceux qui ont honte, hein. Tu sais, ceux-là, je les sais pas. Et c'est pour ça que le recours collectif, je trouve que pour ces personnes-là, de dire vous êtes pas seul, arrêtez de vous cacher, là. C'est un stratagème qui est fait pour vous faire sortir de l'argent de vos poches. Et il faut pas avoir honte de ça. Donc, et si j'ai décidé d'aller vers l'action, la demande d'action collective, c'est parce que Sylvain Paquette, qui est un spécialiste des crimes numériques que je recevais à mon émission, à un moment donné, je l'ai appelé. Je dis, écoute, moi, je sais plus quoi faire, ça m'empêche de dormir parce que ça arrête pas d'arriver, ça s'arrête plus. Et lui, il m'a dit, tu pourrais faire une action collective à deux volets. Usurpation d'une personnalité, du nom d'une personnalité publique et aussi fraude. Aller chercher tes victimes qui ont été victimes de la fraude. Donc, OK, s'il y a deux volets, moi, ce qui est important, c'était les victimes. C'est elles qui perdent ces victimes-là. Et de dire, je ne suis pas responsable publiquement. Parce que de toujours, de garder ce doute que je mettais l'argent dans mes poches, je veux dire, c'est insupportable. Écoute, je suis allée dans un magasin à un moment donné pour payer, puis il y a quelqu'un qui disait, avec tout l'argent que tu voles au monde, tu dois en avoir du cash. Hey! Là, j'étais, oh non, non, hey, ça peut pas. À un moment donné, j'étais avec ma fille, puis il y a des dames, disons, on se parlait. Hey, si on met 500$ dans ta business, combien? Puis là, j'étais, ben non, c'est trop, là, tu sais. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers ce chemin-là.
Est-ce que tu sais qui se cache derrière cette campagne de publicité? Qui a mis l'argent dans ses poches?
Ben c'est la seule personne qui peut nous le dire, c'est Meta. C'est parce que...
Toi, tu le sais pas, là.
Ben non, parce que ça, c'est des gens, là, on les appelle Momentum, là, c'est le nom comme de l'entreprise qui donne pour aller chercher l'argent. Mais eux, là, ils achètent de la publicité sur Facebook avec Meta. Donc, il y a une transaction financière qui se fait, d'après moi, depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Donc, c'est sûr que Meta a les coordonnées. Là. En tout cas, il y a un lien, il y a de l'argent qui se donne à quelque part. Et Meta, ce qu'ils nous ont répondu, c'est « Cette publicité correspond à tous nos critères. Si elle ne vous convient pas, nous allons vous retirer le nom de la liste de ceux qui la reçoivent. » Alors, puis tu sais, j'ai été sur la place publique. N'importe quelle entreprise dont tu vas parler sur la place publique, habituellement, te rappelle pour te dire « Attention, tu fais du tort à l'image, on va se rencontrer. » Moi, j'ai eu aucune nouvelle vraiment. Là, j'ai juste eu le genre de commentaire que je viens de te dire.
Est-ce qu'on peut penser que, parce que c'est souvent le cas quand on a des arnaques comme ça, que ce sont des gens à l'extérieur du Canada, oui, du Québec, avec peut-être une couple de ramifications ici, là, pour être capable de te cibler, puis bon.
Oui.
Mais que, à part Facebook, il n'y a pas grand recours. Puis c'est un géant, Facebook, là. Tu t'en vas te battre avec...
Oui. Ah, mais je le sais. Mais tu sais, c'est pour ça que ça n'a pas été le premier réflexe. Puis je pense que, là, tu sais, le but présentement, c'est que la demande d'action collective soit acceptée. On m'a dit que ça prend environ 4 à 6 mois. Après ça, on va préparer la preuve avec toutes les victimes. Tu sais, moi, j'ai déjà des personnalités publiques qui m'ont contacté. On a déjà plusieurs victimes. Mais c'est ouvert à tout le monde, là. Dès qu'on rentre dans ces deux catégories-là, nous faisons partie de cette requête-là. Et ça va prendre probablement plusieurs années, mais je pense que l'inertie, pour moi, ne rien faire, ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que je suis en train de faire. C'est bien beau chialer à droite puis à gauche, mais il y a des gens qui continuent à se faire, je vais le dire, fourrer. Puis là, tu vois, il y a Normand Bratoit qui a eu exactement la même fraude que moi, tu sais. De savoir que notre nom fait qu'il y a des gens qui mettent leurs finances, qui mettent leur retraite en danger. Moi, j'ai eu, je te dis, des témoignages de gens, puis je leur dis appelez la police. Moi, j'ai un numéro de dossier où quand on le donne, on arrive directement dans cette fraude-là. Alors, c'est moi, j'ai tout fait pour protéger le plus possible les gens. Et c'est sûr qu'avec la police, maintenant qu'il y aura plus, parce que ça prenait deux personnalités publiques pour aller de l'avant. Moi, quand j'ai appelé la Sûreté du Québec, ils m'ont dit que j'étais la première personnalité publique à appeler parce qu'ils ont un programme pour ce genre de fraude. Et c'est sûr que Interpol doit rentrer, mais pour ça, ça prend d'abord la collaboration de Meta pour avoir le minimum de renseignements sur ces gens-là qui sont derrière cette fausse publicité-là.
Mais ça arrivera jamais. Il n'y aura jamais de collaboration de Meta.
Alors, c'est pour ça qu'on va les poursuivre. Puis tu sais, dans cette fraude-là, on se sert du nom de la presse, hein, avec le logo de la presse. Alors, c'est pour ça que c'est embêtant pour les gens aussi. T'as la presse, t'as la photo de Guillaume Lepage qui est très crédible avec tout le monde en parle. Tu sais, on parle de Radio-Canada, on parle de la Banque du Canada. Alors, c'est sûr pour les gens, à un moment donné, ils disent, mais c'est sûr que c'est vrai. Puis tu sais, quand tu vois l'entête de la presse, alors, je vais voir ce que ça donne. On avance contre Meta, mais il y a plus de chances qu'il y ait quelque chose qui change avec le recours collectif qu'en restant chez moi en train de répondre à des messages sur mon téléphone à des gens qui se sont fait arnaquer.
Il y en a eu beaucoup. Puis il y a beaucoup de noms qui ont été utilisés. Là, on parle de crypto-monnaie, mais on a vu ça pour des régimes amaigrissants. On a vu ça pour un paquet d'affaires. Là. C'est-à-dire que les gens tombent là-dedans, là.
Mais c'est les régimes amaigrissants, ça, je serais curieuse de voir combien de pots de pilules ils vendent, là. Puis ils croient, puis même, là, si la personnalité publique dit c'est faux, ben ils veulent pas l'entendre. Il y a plein de gens qui disent non, non, non. Il y a quelque chose qui rentre dans la tête qu'on n'est plus capable de défaire. Moi, je pourrais te montrer des
échanges. Le Nicodère a maigri grâce à ça, tu comprends? Puis là, il a beau dire que c'est pas vrai, ben le monde achète pareil.
Oui, parce que c'est comme si... Moi, là, ce que je comprends, ce monde-là, ils vont dire hey, tu veux garder ça pour toi, mais non, non, c'est sorti, ça a coulé. Moi, là, Paul, là, il y a des soirées, j'étais sur mon divan, puis je m'obstinais des fois avec deux personnes, juste avec deux personnes. C'est faux, hey, c'est vrai. Écoutez, madame, je veux pas que vous faites prendre avec ça, c'est vraiment une arnaque. Hey, qu'est-ce que t'en sais? Bien, parce que c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Oui, je t'ai vu. Hey, mais ça, là, moi, j'en parlais à mes amis, puis tu sais... Tout le monde était, mais c'est pas si grave, arrête de répondre. Ben, c'est parce que c'est mon nom, parce que je les vois rentrer. Puis si au moins je dois dire que c'est faux à chacune des personnes. J'ai eu beaucoup de discussions avec des hommes aussi qui se sont fait avoir. Et eux, ils en parlaient, ils disaient, OK, là, je me sens mal. Il y avait une différence avec les femmes et les hommes. Je trouvais que les hommes arrivaient vite, OK, je me suis vraiment fait fourrer. Qu'est-ce que je peux faire? Ils étaient moins dans... On dirait que les femmes avaient vraiment plus de colère à cette fête à voir que les hommes. Les hommes, ils disaient, OK, qu'est-ce que j'ai pensé? Je voyais vraiment la différence. Et c'est une des victimes de la fraude qui m'a écrit, parce que moi, j'en ai donné plusieurs à l'avocat. Ils les ont contactés et il y en a un qui a accepté d'être le porte-étendard de toutes les victimes de fraude.
Il est en Beauce, je pense. Il semble qu'il est en Beauce.
Il est en Beauce, exactement. Ouais. C'est un Beauceron.
Marie-Claude, merci d'être venue ce matin. Bonne chance.
Bien, ça me fait plaisir. Écoute, peut-être que je vais venir te voir dans 10 ans. Bien, tu ne seras plus là, mais en tout cas, peut-être ailleurs, je viendrai te voir pour te dire qu'est-ce qu'il y en est. C'est à suivre.
Merci beaucoup. Marie-Claude Barrette, donc, qui a déposé cette requête de recours collectif contre Meta Facebook. Est-ce qu'il faut se lever? Parlons maintenant du prix des aliments. On a énormément jasé de l'explosion de la facture, mais notre ami Sylvain Charlebois met en lumière ce matin des aliments dont le prix est moins élevé qu'avant la pandémie. On ne pensait pas que ça pouvait exister. Il est avec nous ce matin. Sylvain, bonjour.
J'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin,
C'est excellent. Mais je regardais la liste de certains produits, certains aliments là, qui sont vendus à un prix inférieur qu'au moment où la pandémie nous a frappés. D'abord, comment on explique ça qu'il y a des produits qui coûtent moins cher maintenant?
Bien, moi, j'ai toujours dit que l'inflation est un problème, mais le plus gros problème qu'on a, c'est la volatilité des prix. Parce que souvent, les gens vont arriver à l'épicerie, ils vont voir un prix extrêmement élevé, sans savoir que ces prix-là vont fluctuer. Et là, quittent, et puis là, ben, ils reviennent plus jamais. Donc, ils ont comme en tête, là, mentalement, que ce produit-là n'est plus abordable. Or, ce qu'on oublie, c'est que les prix ont augmenté et baissé. Et sur 4 ans, on s'est rendu compte que, justement, il y a certains produits qui sont moins chers aujourd'hui qu'en février-mars 2020.
Bon, vous donnez des exemples. Là, je regardais les produits du porc, par exemple,
Ouais.
Le porc, le poulet aussi un peu, les poitrines de poulet?
Ça, j'ai l'impression que ça va surprendre beaucoup de monde parce que Je sais que l'année passée, il y avait une photo qui a été partagée par des millions de personnes. Là, c'était des poitrines de poulet à Toronto à 39 $ pour 5 poitrines. Et depuis ce temps-là, quand on mentionne que les poitrines de poulet sont moins chères qu'en 2020, les gens le croient tout simplement pas. C'est vraiment quand même exceptionnel ce qui s'est passé depuis 4 ans, parce qu'on a tellement dit à tout le monde que tout est cher, que lorsqu'on dit que certains produits qui sont des aubaines, qui offrent des aubaines, ben les gens ont de la difficulté à le croire. On est rendu là pas mal. Là.
Avez-vous d'autres bonnes nouvelles sur d'autres produits?
Le thon en conserve aussi est une exception. La fameuse banane, on parle beaucoup de la banane qui a une immunité contre l'inflation. C'est incroyable. La banane, c'est une belle histoire. Ça fait quoi, 20 ans, 25 ans que c'est à peu près le même prix. C'est sûr que le prix va fluctuer une fois de temps en temps, mais en gros, là, la banane a toujours demeuré à peu près au même prix. Donc, il y a quand même des aubaines. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté, puis c'est vrai que les prix ont augmenté. Je vais vous poser une question, Paul.
Ouais.
Depuis 2020, mars 2020, combien en pourcentage que vous pensez que les prix ont augmenté, là, toutes catégories confondues, à peu près?
15 %
23 %
23?
Oui.
Mais il y a des produits, l'huile d'olive, par exemple, mais même mes amis italiens hésitent à consommer parce qu'ils trouvent que c'est trop cher.
Non, exactement, mais on a sondé les Canadiens il y a 2 semaines. On leur a demandé la même question. Combien en pourcentage vous pensez que les produits ont augmenté depuis 2020? Et la réponse, la moyenne, est 78 %.
Hey boy.
Donc, il y a un écart de 55 %, là.
C'est énorme.
Et c'est un gros problème.
Sylvain Charlebois, merci.
Bonne journée.
Bonne journée. Sylvain Charlebois, qui est le responsable scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.